Donc ça y est, ils sont installés. Nous allons pouvoir commencer ce Canu Info. Là, vous faites un bruit énorme, donc ce serait bien qu'il y ait un peu de silence dans les studios.
On est en train de se faire gronder, attention.
Donc, c'est à moi de parler, c'est ça?
Je te propose d'ouvrir ce petit Canu Info, puisque nous avons en plus des invités ce soir.
Ça, je l'ai dit avant que vous arriviez, j'étais un peu impatient, tout le monde est... Alors, la prochaine fois qu'on fait un Canu Info, vous n'allez pas boire des coups au bar à côté avant?
Même pas.
Ah bon.
Même pas, on préparait un petit peu cette émission. Écoute.
Donc, dans ce Canu Info qui a débuté dans une ambiance non organisée, nous recevons Acrimed. Ce sera la troisième info du jour. On commencera par parler un petit peu des élections de Carlos Ghosn. Ensuite, effectivement, Acrimed. On parlera de l'expo Steve McCurry juste après Acrimed. Et puis après, d'autres infos autour de l'environnement, autour des fachos, autour de l'éducation. Ça dépendra un peu du temps qu'on a. Et c'est donc moi qui ouvre ce Canu Info, tant bien que mal, avec des petites infos sur les élections. Et on va parler des élections dans le monde agricole, puisqu'on ne le fait pas souvent, suivre les élections du monde agricole. Alors pourquoi il y a besoin de parler? Parce que comme tous les 6 ans, nous avons eu, enfin pas nous, puisqu'on n'est pas vraiment dans le monde agricole à Lyon.
Non, pas vraiment, non.
Voilà. Nous avons eu donc des élections pour élire les représentants des chambres d'agriculture. Alors chambres d'agriculture, c'est très très important pour le monde agricole, puisque c'est là qu'une bonne partie du pouvoir se situe. Alors bien évidemment, il y a un ministère de l'agriculture, il y a un parlement, vous connaissez le système de la démocratie représentative française, qui vote des lois, etc., qui ont des lois qui ont aussi un impact sur le monde agricole. Mais il y a un deuxième étage de pouvoir, qui est celui des chambres d'agriculture. Du coup, il y avait, comme d'habitude, des enjeux importants, puisque se battent plusieurs visions, plusieurs idées du monde agricole et du monde paysan. Alors, ils utilisent beaucoup le mot paysan, mais en fait, la majorité ne sont plus des paysans, mais sont plutôt juste des industriels au service de l'agroalimentaire. Alors, le bilan de cette élection qui a eu lieu il y a quelques jours, la FNSEA a gagné. Bon, vous me direz, c'est comme d'habitude, c'est triste, ils sont toujours alliés aux jeunes agriculteurs, hein, qui est une sorte de sous-branche de la FNSEA. Donc le grand défenseur des pesticides, de l'agriculture industrielle, de tout ce qu'on peut connaître, a gagné. Alors c'est Christiane Lambert, puisque maintenant nous avons droit à une présidente de la FNSEA, qui est aussi nécrophile, dirons-nous. Elle aime autant les produits de mort que son prédécesseur masculin, comme quoi l'égalité des sexes n'entraîne pas d'évolution positive dans le monde de l'agriculture, en tout cas pas au sein de la FNSEA. On aurait pu espérer, mais c'est perdu d'avance. C'est perdu. Donc elle a rappelé qu'elle avait gagné, elle et son syndicat, 56% des voix. Et que, alors la fois d'avant c'est 55,57, donc elle a à peine progressé, mais c'est, grosso modo c'est assez stable en fait le monde agricole. Et elle a dit, ben voilà, je suis majoritaire, donc monsieur Macron, il va falloir nous écouter. En gros c'est ce qu'elle a dit, sous-entendu, laissez-nous continuer de détruire la planète et de vous donner des cancers, puisque c'est le rôle de la FNSEA. Ah, le deuxième rôle c'est aussi d'enrichir le monde de l'agroalimentaire. Alors deuxième position... Vous demandez tout ce qui est en deuxième position, c'est la coordination rurale. Alors c'est quasiment pire que les FNSEA. Ils font 21,5% des voix. Alors c'est un truc très hétérogène, donc il y a des gens qui sont respectables, mais pas tant que ça. Et puis d'autres où c'est l'extrême droite en fait du monde agricole. Hein. Alors déjà que la FNSEA c'est pas très à gauche, vous imaginez la coordination rurale. Là, ça fait très très peur. Bon bref, eux ils ont 21,5% des voix, ce qui fait que majoritairement il reste quoi? Il reste pas grand chose. Et qui c'est qui n'allait pas grand chose? C'est la Confédération Paysanne, le seul syndicat agricole un peu important, qui est classé à gauche, qui a un autre modèle d'agriculture, qui a un autre modèle de développement, et un autre modèle de vision un peu anti-industrielle, pas tant que ça. C'est pareil, c'est disparate aussi au sein de la Confédération Paysanne. Mais voilà, donc... ils ont, comme d'habitude, à peu près un peu en dessous. Alors avant, ils étaient un peu en dessous de 20%. Là, ils ont dépassé légèrement de 20%. Alors, ils sont plutôt contents, la FNSEA. Alors, pas tant d'avoir passé la barre symbolique des 20%, mais parce qu'ils ont gagné 2 chambres d'agriculture. Et ça, c'est fondamental. Hein. Donc, ils ont gagné Mayotte et ils ont gagné la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, ça s'est joué à un pouillème, hein, c'est-à-dire un tout petit truc. Il faut savoir que dans l'élection, hein, le gagnant, il a d'office la moitié des sièges. C'est une élection qui permet de pouvoir... c'est la prime au gagnant, un peu, pour éviter d'avoir trop d'arrangements entre les groupes et les syndicats. Du coup, ils ont gagné cette belle région de Loire-Atlantique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Grosso modo, dans 50 départements, la Confédération paysanne est en légère hausse. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de paysans, d'agriculteurs qui adhèrent à ces gauchistes, parce qu'au début c'était quand même pas toujours très bien perçu par le monde agricole, qui quand même de plus en plus se rend compte qu'ils ont peut-être un autre modèle à proposer et que cet autre modèle il est peut-être plus intéressant, notamment à moyen terme et à long terme c'est sûr, que ce que propose la FNSEA. Voilà. Alors, le côté super négatif, c'est que la participation est en très très forte baisse au niveau des votants, c'est-à-dire des agriculteurs, puisque c'est 45% de votants, donc c'est même pas la moitié des votants qui sont déplacés et qui sont allés voter. C'est 10 points de moins par rapport à la dernière élection, donc il y a 6 ans, en 2013. Donc là, c'est plutôt mauvais signe, c'est-à-dire qu'il y a un désengagement, je pense qu'ils sont un peu désespérés aussi, le monde agricole. On rappelle qu'ils ont quasi le record de suicides en France dans le monde du travail. Donc voilà la situation aujourd'hui. Alors il faut savoir aussi qu'avec ces élections, c'est de l'argent qui arrive comme dans les partis politiques traditionnels, puisque des fonds publics sont donnés. Donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs vont toucher 6,129 millions d'euros, la coordination rurale 2,495 millions d'euros et la confédération paysanne 2,3 millions d'euros. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point sur cette élection et qui est en fait très peu médiatisée et pourtant qui est très très importante puisque l'agriculture c'est quand même normalement un truc fondamental.
Alors on va parler de monsieur Carlos Ghosn, vous savez hein, ce monsieur qui continue à avoir des ennuis depuis le 19 novembre 2018. Ce patron qui est aujourd'hui dans une petite cellule au Japon continue à avoir des ennuis et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de Carlos ici, mais on a suivi hein, les rebondissements quand même de cette enquête qui mois après mois quand même t'as une certaine saveur, il faut bien le dire, c'est pas tous les jours qu'on arrête quand même un PDG de cette ampleur sur le tarmac, hein. Imaginez là à l'aéroport de Lyon à Saint-Exupéry un patron dans son jet filmé par des médias et avec des procureurs et tout ça, de la police qui vient et qui pendant, je crois que ça a duré 6 heures hein, sur le tarmac, un truc de fou quoi, avant que finalement il soit sorti de l'avion, son jet hein, à lui là, enfin ouais, en tout cas à la multinationale, et donc c'est quand même une sacrée affaire hein, qui est évidemment derrière cette arrestation, mais on a quand même des petits plaisirs. Parce que comme on n'aime pas bien les patrons, quand il leur arrive encore un peu plus des ennuis, bah, on peut que savourer. Alors, il a quand même été longtemps soutenu hein, par les autorités françaises, il faut quand même le dire. Et puis, bah, finalement, il a été lâché un petit peu au fur et à mesure. Et alors là, donc, on a appris hier qu'il n'aurait pas ses indemnités de non-concurrence. Ça y est, à Renault, le conseil d'administration a enfin pris une décision. Il n'aura pas tout son pognon. On a aussi appris qu'il n'aurait pas les actions auxquelles il pouvait prétendre au terme de la performance. Vous savez, quand on est patron, on n'a pas une prime. Hein, on a des choses qui sont dues à la performance. Toi qui m'écoutes là, hein, tu as peut-être une petite prime de fin d'année.
Et encore, c'est pas sûr.
Et c'est pas sûr. Et puis peut-être que si jamais t'as un peu fait du chiffre et que t'as bien rentré dans les quotas, on va te donner une prime parce que t'as bien réussi. Bah, chez les patrons, c'est un truc un peu systématique quand même d'avoir ces primes de performance. Et on se demande toujours en quoi ils sont plus performants que les autres dans l'entreprise. Hein. Mais en tout cas, bon, il devait avoir des actions. 460 000 actions. Et bah, apparemment, il va pas les avoir non plus. Et alors je me suis demandé, est-ce que Carlos, dans sa cellule, quand il avait commencé à avoir des ennuis, est-ce qu'il s'est demandé combien de temps je vais rester dans ma cellule, quelle ennui je vais avoir, où est-ce qu'on va me prendre mon pognon? C'est-à-dire, c'était quoi sa priorité en fait d'envoyer dans les choses? C'est-à-dire que moi je suis une petite gens, quand je vais en cellule, j'imagine que ma priorité c'est de me barrer et de me retrouver libre. Mais je me suis demandé chez Carlos, quand on est riche comme ça, est-ce que l'idée c'est d'être libre ou on se dit putain, mais merde mon pognon parce qu'il va y avoir des répercussions, vous voyez? Bon, peut-être que je pense mal et que lui aussi voulait être libre. En tout cas, il l'est toujours pas, hein, puisqu'il est toujours détenu. Hein. Donc en fait, d'après les chiffres, on pense que là, il a au moins perdu là pour l'instant 30 millions. À d'euros. C'est une petite somme, en fait, pour lui. Pourquoi c'est une petite somme? D'abord parce que sa fortune, elle est estimée par Bloomberg, qui s'y connaît un petit peu, à 100 millions d'euros.
Ouais, c'est pas mal.
Donc en fait, finalement, il a perdu un peu des sous, hein, là, pour l'instant. Mais par rapport à sa fortune, finalement, ça reste pas tant que ça. Hein. Alors évidemment, pour nous, 30 millions, c'est des sommes qui sont assez indécentes. Et puis surtout, il a toujours une belle retraite, parce que ça, apparemment, il a le droit de la toucher, comme tout travailleur et travailleuse. Simplement, c'est le montant qui est quand même assez... je sais pas, vous avez une idée de ce qu'un Carlos peut prétendre à la retraite, comme ça. Eh ben, on parle de 765 000 euros par an. Alors vous faites, vous divisez par 12 par mois, je l'ai pas fait, mais dans votre petit cerveau. Et puis après, vous divisez par votre propre salaire, et vous avez une idée à peu près de ce que tout ça peut représenter. C'est, on parle de chiffres quand même qui sont énormes. Alors bon, là on parle de pognon, de pognon, de pognon, mais alors en plus, on a appris hier que son avocat a décidé de l'abandonner. C'est-à-dire qu'il a, donc, il a remis au tribunal une lettre de démission. Il s'appelle Motonari Otsuru. Et il avait un confrère qui s'appelle Masato Oshikubo, et ben ils ont laissé tomber en fait. Voilà, le cabinet d'avocats a laissé tomber Carlos. Donc on sait pas pourquoi. Hein, peut-être que c'est le cabinet a des raisons très sérieuses. Bon, dans la presse, on se dit que quand même, il s'exprime pas beaucoup le cabinet d'avocats, qu'il y avait peu de sorties officielles et qu'ils étaient peut-être un petit peu mous. Mais c'est vrai qu'on est dans les pays en France, on a des avocats qui sont qui parlent très très fort. On est bombardé de séries américaines dans lesquelles on a des séries avec des histoires dans les tribunaux. Donc peut-être qu'en fait, moi j'ai pas bien d'idée de comment ça se passe dans un tribunal japonais, mais en tout cas il est quand même un peu accusé ce cabinet d'avoir peut-être pas bien porté fermement et avec vigueur la défense de Carlos Ghosn. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il se retrouve du coup, là, en quelques jours, abandonné par Renault, abandonné par son avocat. Juste pour vous rappeler, hein, quand même, donc, ça date l'arrestation du 19 novembre. Il a eu une première inculpation le 10 décembre. Tout ça, toujours, hein, il est resté quand même en prison, hein, placé en garde à vue. Il y a eu des perquisitions dans son appartement à Tokyo, au groupe Nissan, hein, dans la banlieue de Tokyo. Pendant ce temps, il y a un titre provisoire qui avait été confié à Thierry Bolloré, qui depuis a pu s'installer dans le poste. Mais on sentait quand même que du côté du conseil d'administration de Renault, on voulait quand même un petit peu préserver Carlos Ghosn, mais du côté des Japonais, par contre, alors là, hein, c'était allé beaucoup plus vite pour s'en débarrasser, hein, puisque le 26 novembre, le conseil d'administration de Mitsubishi Motors a limogé, hein, Carlos Ghosn tout à fait rapidement, alors que Nissan venait juste de le faire deux jours avant. Donc, c'est allé très vite chez les Japonais pour l'abandonner. Du côté des autorités françaises et du conseil d'administration de Renault, ça a été quand même beaucoup plus lent, il faut le dire. Alors il a eu un mandat d'arrêt ensuite le 21 décembre, c'était des nouvelles charges, hein, puisque je vous rappelle qu'il a été, alors il a inculpé le 10 décembre pour avoir sous-estimé ses revenus pendant 5 ans de 2010 à 2015, pour quand même 39 millions d'euros. Hein. Voilà, 5 milliards de yens, hein, tout de suite en yens ça fait beaucoup. Il a été inculpé aussi le 11 janvier dernier, hein, pour avoir minoré ses revenus sur 2015-2018, donc apparemment c'est un truc qui se poursuit. Il a comparu la première fois donc le 8 janvier dernier, hein, au tribunal. Il paraît qu'il était très amaigri, on a eu quand même pas mal de dessins, vous savez, qui sont parus dans la presse pour nous montrer un homme oui, avec les joues creuses, hein, Jacques, c'est exactement ça, tu fais le geste. Voilà, sa femme disait qu'il souffrait beaucoup. Bah oui, les gens en prison ils souffrent, ça on en est, la prison c'est là-dessus, on en est absolument persuadé. Mais bon, quand même, hein, le 10 janvier, il y a un CA extraordinaire de Renault qui l'a maintenu à sa tête, hein, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, à la tête de Renault, quand même, il faut se rendre compte de ça. Et puis finalement, il a été mis en examen pour abus de confiance. Enfin, voilà. Comme je vous le disais, il y a eu une requête de libération le 22 janvier dernier, mais ça a été rejeté. Hein. Non, non, toujours en prison. Parce que l'idée des Japonais, c'est qu'en fait, il a trop de pognon, qu'il pourrait se barrer, s'enfuir, se cacher, tout ça. Bah...
Ce qui n'est pas illogique. Hein.
Pas faux.
Ce n'est pas faux. Mais enfin, on va pouvoir lui mettre un petit truc à la cheville et puis le mettre dans une petite résidence.
Oui,
enfin, je sais pas, nous, la prison, on n'est pas très pour.
C'est
alors
ce qu'ils font, je crois, voilà. Au Japon aussi.
Ouais. Voilà. Donc, enfin, toujours est-il qu'il a d'autres ennuis. Alors, on va s'arrêter là sur ce qui lui arrive côté judiciaire. Mais si on a d'autres ennuis, puisque depuis, on a appris qu'il avait fait une grande fête au château de Versailles pour ses 60 ans, que ça avait coûté 600 000 euros quand même. Pardon, j'hésite avec les chiffres, tellement c'est gros. Et alors que, en fait, ben, il a fait payer ça à l'alliance Renault-Nissan, puisqu'il a dit qu'en fait, c'était pour le 15e anniversaire de l'alliance Renault-Nissan, mais qu'en fait, il aurait fêté ses 60 ans. Je mets du conditionnel, nous n'avons pas encore la preuve de tout ça. Et puis qu'il y a eu un repas de mariage aussi, toujours à Versailles, hein, parce que le château de Versailles c'est quand même classe, surtout quand on a du pognon. Alors là, ça aurait coûté 50 000 euros, et alors là en fait il a profité d'un accord de mécénat de Renault avec le château de Versailles pour aller faire la fête individuellement, sauf que l'accord de mécénat de l'entreprise ne devait pas servir à ce qu'un un particulier individuel salarié de l'entreprise puisse aller festoyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, tous les ouvriers et ouvrières de Renault devraient pouvoir profiter des grands salons du château de Versailles. Pourquoi pas ? Hein, pourquoi pas ? Mais apparemment, il a un peu outrepassé ses droits. Et puis après, il a fait des donations chez les universités, hein, à Beyrouth. Voilà, un certain nombre de sous, hein, 50 000 par-ci, 50 000 par-là. Bon, et puis moi, j'ai surtout aussi retenu qu'il a une sœur. Et je vais terminer avec ça, elle s'appelle Claudine Bichara de Oliveira. Et apparemment, elle a eu une belle rémunération, on parle de 1 million d'euros, 1,5 million précisément, en euros. Et qu'elle aurait été conseillère pour Nissan. Sauf que c'est un peu comme avec l'affaire Fillon, on ne sait pas bien ce qu'elle a conseillé.
Tu veux dire que ça ressemble à un emploi fictif ?
Eh ben, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Donc, et puis, il y a d'autres affaires hein, de sous-sous. C'est-à-dire qu'il est à la fois... Il cumule, la Carlos. Très clairement, il cumule grave. Et en plus, il n'a plus d'avocat.
Ouais, non, mais comme tout le monde l'a lâché, en fait, il faut voir ça. Que les Japonais attendaient que ça pour se débarrasser de ce non-japonais. Hein, on connaît le côté nationaliste du Japon. Et du coup, tout le monde balance, là. En Europe, ça avait tenu jusqu'à maintenant, et puis ça commence à sortir aussi. Il est lâché par tout le monde, et du coup, tout sort, en fait.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'aussi, il a profité apparemment de sous-sous pour s'acheter un certain nombre de petites maisons à travers le monde. Pas très grande, pas très luxueuse quand même, non. Enfin si, il paraît que c'est des beaux palaces et tout, et qu'en fait, il paraît que tout le monde était d'accord hein, pour en fait lui financer ses baraques. Alors ça c'est marrant, parce que moi, mon patron, il n'est pas d'accord pour financer mes baraques, mais lui, il aurait eu l'accord en fait, donc des actionnaires multiples à travers le monde pour lui payer des maisons au Liban, au Brésil, en France, puis je sais plus où, le dernier pays quand même. Parce qu'en plus, quand on est très riche, on a besoin de plusieurs maisons.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Très bien.
Donc on pense très fort à Carlos du fin fond de ses 6 mètres carrés. Coucou Carlos.
La roue a tourné.
Voilà.
Alors on va recevoir Acrimed donc. Jacques et Vincent qui vont nous... Pascal.
Vincent qui... qu'on peut saluer d'ailleurs.
Voilà, qu'on va saluer aussi, oui. Qui vont nous parler donc...
Ah, on vous a pas dit ce qu'on...
Ouais, on l'a pas introduit.
Alors en fait, on va revenir un peu sur le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes.
Il y a eu un traitement médiatique, tu crois ?
Voilà, alors le traitement médiatique uniquement, c'est-à-dire que c'est un préalable important, on ne va pas parler pour ou contre les Gilets jaunes, ce n'est pas notre propos, on laisse ça à l'appréciation de chacun. Mais plutôt, on va essayer de faire quelques remarques sur la façon dont ce mouvement a été traité dans les médias dominants. Médias dominants qui sont apparus plus que jamais, on va le voir, comme des véritables chiens de garde. Enfin, c'est une expression qui est bien passée dans le grand public, parce qu'elle accroche bien, elle correspond bien à ce qu'on ressent. Chiens de garde tenaces de l'ordre politique établi, ou de la ligne macroniste, là, comme on veut, du gouvernement Macron, et qu'ils ont usé, encore une fois, à peu près de toutes les ficelles possibles et imaginables pour mater la rébellion qui était en cours. Alors, c'est une situation qui a été jugée par notre association, avec tout ce qui s'est passé depuis un certain temps, assez grave pour que, pour une fois, c'est pas très fréquemment qu'ils le font, mais qu'ils lancent un appel qu'on peut retrouver sur le site d'Acrimed qui s'appelle « Face aux dérives médiatiques, mobilisons-nous ». Alors je veux juste lire les premières lignes là, pour que vous ayez une idée des raisons pour lesquelles Acrimed est sorti de sa torpeur critique. C'est quand on fait de la critique qu'on est derrière un écran vidéo. On va aussi un peu dans les manifs et on distribue des choses, rassurez-vous. Et donc on parle avec beaucoup de gens et on essaye de conscientiser les gens sur l'importance qu'il y a à considérer cette question des médias comme une question politique. Mais là, par contre, la coupe étant tellement pleine, cet appel a été lancé. Alors vous allez voir à qui. Donc je lis le début. Nous lançons un appel à l'ensemble des forces politiques de la gauche de gauche, aux journalistes et leurs syndicats, aux collectifs de journalistes précaires, aux médias alternatifs, comme à l'ensemble des usagers des médias, pour contester les dérives médiatiques actuelles et penser urgemment la réappropriation démocratique des médias des dominants. Le traitement médiatique des mouvements sociaux en cours, et en particulier celui des Gilets jaunes, n'est hélas pas surprenant. Toutefois, la mobilisation des médias dominants en défense du pouvoir politique et des forces de répression a pris depuis quelques semaines des proportions inédites. Alors je vous laisse aller prendre connaissance de cet appel plus en détail, j'ai pas terminé bien sûr, sur le site d'Acrimed. Alors pour revenir sur le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes, alors ce sont les partis pris de plus en plus ouvertement énoncés par les chefferies éditoriales, en particulier celles qui sont les plus visibles. Hein, les chefferies éditoriales, c'est ceux dont on voit très souvent les têtes à la télévision, ou qui en tout cas dirigent les médias qui ont le plus d'influence sur le grand public, contre ce mouvement. Et là, évidemment, on croule littéralement sous les exemples. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant d'évoquer, c'est la peur panique qui a saisi un certain nombre de rédactions et un certain nombre d'étiquetocrates à mesure que le mouvement durait et que se voyait de plus en plus l'écart entre ce qui se passait en France, on va dire, hein, voilà, dans les rues, dans les manifs ou sur les ronds-points, prenons des guillemets, parce que ça c'est une formule très journalistique, et les prises de position de plus en plus méprisantes, voire haineuses, dans les médias envers ce mouvement, à grand renfort, bien entendu, d'images de violence, de reprise des chiffres de la police, de menaces, de chaos social. Alors donc on est donc passé en quelques semaines, on l'aura peut-être déjà oublié, si on rétropédale et qu'on revient au tout début à des choses un peu marrantes. Alors au départ c'était un peu de la condescendance envers ce mouvement, au tout début, sans doute parce qu'on pensait qu'il ne durait pas beaucoup, et que quelques édictocrates prenaient même la défense à l'antenne, devant le grand public, la défense des Gilets jaunes, en qui ils reconnaissaient des nouveaux alliés dans leur combat toujours très libéral contre les taxes ou les impôts. Alors par exemple, Éric Brunel de RMC, par exemple, déclarait « Ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui va avec rien, portons-le. Pourquoi ? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. » Cyril Hanouna, qu'on doit bien aimer sur cette antenne aussi, qui se proposait de se faire le porte-parole des Gilets jaunes devant ses invités et qui déclarait même sur la chaîne « Les chaînes du groupe Canal+, on est avec vous. » Ensuite, on est passé à une autre attitude, qui est une attitude de mépris social et de haine de classe, quand même assez ouvertement perceptible, quand il s'agit notamment de présenter de plus en plus systématiquement les Gilets jaunes comme des beaufs réacs, sexistes, homophobes, racistes, en reproduisant insidieusement le schéma politique qui est à l'œuvre, qui était à l'œuvre en tout cas au moment de l'élection présidentielle, à savoir que la seule alternative contre le libéralisme, élitiste certes mais rationnel de Macron, serait le chaos nationaliste ou d'extrême droite. Voilà. Alors là, il y a une illustration dans le journal Le Monde qui est assez symptomatique de cet état d'esprit. Alors c'est un dessinateur, on reprend un truc qui a été publié sur le site d'Acrimed, un dessinateur qui s'appelait Xavier Gorce et qui a fait une petite série de dessins où on représente les gilets jaunes sous la forme de pingouins. Alors c'est des pingouins avec des gilets jaunes qui partent à d'autres pingouins qui n'ont pas de gilets jaunes. Alors, c'est ceux qu'il appelle les fachos ploucs de droite antidémocratique. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de réflexions qui sont faites, des échange, il y en a un pingouin qui dit « On ne veut pas se faire récupérer par moins con que nous, ça nous dénaturerait. » Ou un autre qui dit « Nous exigeons et n'essayez pas de nous piéger en nous demandant quoi. » Voilà, alors cette séquence c'était sur fond d'images de violence, de l'apparition des casseurs, de la reprise des infos de la police, je l'ai déjà dit, sur les interpellations, etc., les chiffres de la préfecture, les blessés dans les rangs des forces de l'ordre, bien sûr, mais jamais parmi les manifestants. Les violences policières étaient invisibles. Alors, au passage, d'ailleurs, dans le dernier numéro d'Acrimed qui porte sur les Gilets jaunes, on évoque une enquête qui a été faite par Amnesty International qui est parue le 17 décembre et qui dénonçait, je cite, le recours excessif de la force par les policiers et qui dénombrait le nombre de blessés parmi les manifestants, tels qu'ils avaient pu les repérer. Alors ça s'est fait aussi encore aujourd'hui. Maintenant, c'est plus visible, mais à ce moment-là, ça ne l'était pas du tout. Mais à ce moment, au moment où Amnesty International a sorti cette petite enquête, silence à peu près total dans les médias, qui avait autre chose à regarder et autre chose à dire. Voilà, ensuite, troisième temps, après l'intervention de Macron, le 10 décembre, alors les idéotocrates se sont fendus d'injonctions envers les Gilets jaunes, les appelant à rendre les armes et à arrêter les manifs. Il y a une petite vidéo sur le site d'Acrimed qu'on vous convie d'aller regarder, le marrant en plus, où on voit un certain nombre d'éditorialistes, Nathalie Saint-Cricq, Barbier sur BFM TV, Apathy, Brunel et d'autres. Voilà, qui, alors le titre de la vidéo, c'est les éditorialistes applaudissent Macron et sifflent la fin de la récré. Alors je citais deux petits extraits pour qu'on ait un peu de grain de ce qu'on peut attendre. Là aussi, c'est savoureux. Alors Apathy de Europe 1 disait d'un ton mélodramatique, après avoir salué les propositions de Macron à ce moment-là, « Les Gilets jaunes ont brisé Emmanuel Macron. » En plus, je l'imite, vous voyez. Ils ont brisé son élan, ils ont brisé sa trajectoire, et même plus que ça, ils ont brisé sa jeunesse. Brunet, aussi de RMC, qui disait « De mémoire de journaliste, je n'ai jamais vu un truc pareil obtenu par les syndicats. C'est vraiment une réponse très forte. » Moi qui ai été gilet jaune aux premières heures du mouvement, il me semble qu'il faut enlever les gilets jaunes et les remettre dans la boîte à gants. samedi, on ne va pas manifester, on n'appelle pas à l'acte 5. À l'époque, on était encore à l'acte 5.
Heureusement qu'ils ne sont pas trop écoutés, du coup, parce que ça ne marche pas bien.
Oui, alors il n'y a pas que qui dit ça. Hein, enfin, alors, si eux ne sont pas forcément très écoutés, certes, mais enfin, c'est quand même une tonalité générale. Là, on ne prend que quelques cas particuliers. Mais ça a bien été la panique dans les médias, car, comme c'est souvent le cas avec un mouvement social qui dure, ça a poussé les journalistes à dévoiler un petit peu leur parti pris. Et aussi, en réaction, on va dire, à devenir les cibles des manifestants. Alors, il y a eu un blocage de l'imprimerie de Ouest-France, des manifs devant BFM TV, mais aussi qui a été pris un peu en grippe par les manifestants, mais aussi à France Télévisions. Des prises à partie de journalistes dans les manifs. Et j'ai trouvé un petit truc dans Télérama où il disait la chose suivante. Voilà, une équipe de LCI a été agressée à Rouen. Une autre de l'AFP a été menacée à Toulon. Une journaliste frappée à Pau. L'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes a été marqué par des actes de violence contre la presse. Un déchaînement de haine qui alarme la profession. D'ailleurs, on apprenait quelques jours après dans Libé qu'en fait, une équipe de LCI agressée par Rouen, voilà, c'était une fake news hein, de LCI, hein, voilà, de ceux qui avaient présenté cette information, puisque ce n'étaient pas des journalistes qui avaient été agressés par des manifestants, mais un agent de sécurité qui les encadrait. Bon, il a fini à l'hôpital, certes, mais c'était un agent de sécurité. Mais, fidèle à elle-même, la corporation qui a occulté les violences policières, présenté les manifestants comme des beaufs, qu'il leur a ordonné de rentrer sagement à la maison après le discours du président, la corporation fait curieusement bloc dans ce genre de situation. Et on peut retrouver, bizarrement, de Mediapart au Figaro, du CSA à Radio France, à peu près toujours le même refrain, s'en prendre aux médias, c'est s'en prendre à la démocratie. Alors bien sûr, on a l'habitude, c'est la tarte à la crème habituelle. Alors il y a eu bien eu quelques remous dans certaines salles de rédaction, y compris celle de BFM TV d'ailleurs. Mais la corporation résiste décidément à toute mise en cause en faisant semblant de s'interroger sur elle-même. Alors un petit exemple, le rendez-vous de la médiatrice de France Info qui a dérangé le directeur de la rédaction de France Info qui s'appelle Vincent Giray. C'est un journaliste un peu capé qui a été rédacteur en chef du Monde, au Monde, qui est passé par Libération et qui dirige aujourd'hui en France Info. Donc le 12 janvier, elle lui pose la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir pour les journalistes de reconsidérer les méthodes de travail, d'enrichir le dialogue avec vos auditeurs? Réponse de Vincent Giray. Nous sommes engagés dans une réflexion de longue haleine. À France Info, nous allons lancer une réflexion collective. Aucun sujet n'est tabou. Il faut pouvoir discuter de l'exercice de notre métier. À un moment, ajoute-t-il, où une partie des Français adresse des critiques extrêmement violentes, caricaturales, excessives. Bah, on l'a compris, hein, il suffit de faire un peu de com' interne et externe pour balayer au plus vite la critique des médias, en la revoyant, comme d'habitude, aux pulsions irrationnelles et aux pulsions antidémocratiques.
Et pendant ce temps-là, dans le reste de l'actualité, c'est comme ça que les présentateurs de journaux d'information enchaînent lorsque leur journal a consacré une grande partie de son édition à ce qu'on appelle une breaking news, cette information qui, à l'instar justement de la crise politique des Gilets jaunes, s'impose à tous et bouleverse l'ordinaire de l'agenda médiatique. Et qu'il leur reste une poignée de minutes pour traiter bien souvent de sujets, notamment internationaux. Dans le cas des Gilets jaunes, c'est un peu particulier parce que c'est une breaking news, on va dire, qui dure et qui est déclinée par les médias de manière désormais rituelle, selon la logique, pour dire très vite, hein, de l'affrontement et de la violence. Alors ce mode de surmédiatisation a pour conséquence indirecte de renforcer un processus général, hein, de dégradation de production de l'information qui est déjà sévèrement entamé, en soulignant combien les grands médias, qui sont de plus en plus dominés par le modèle économique et le modèle éditorial des chaînes d'info, hein, en continu, au point que les sites internet de la presse écrite développent ce modèle, hein, à travers leur propre direct, ou encore l'instauration d'un fil de l'eau des informations. Non seulement ces médias informent de plus en plus mal, mais n'informent même plus du tout dans certains cas. Alors informer mal, hein, alors c'est un peu à l'image du traitement de l'actualité internationale, hein, sur le service public de l'audiovisuel, avec par exemple les lamentables séquences d'écryptage, je cite, décryptage, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, qui sont proposées dans les journaux télévisés, comme celle qui, le 21 octobre 2018, Acrimed a consacré un article d'ailleurs à ce décryptage, le 21 octobre 2018, tente de nous expliquer les crises politiques de trois pays d'Amérique latine, en 2 minutes chrono, ponctuées d'erreurs factuelles, de raccourcis et d'amalgames. Alors ne plus informer du tout, les logiques de l'IMAT, hein, de concurrence qui s'impose aux lignes éditoriales des médias mainstream, finissent par rendre invisible, ou alors relégué comme sujet de seconde zone, des faits d'actualité en réalité d'intérêt public, mais à faible potentiel d'audience, hein, dans la mesure où ils se prêtent mal, précisément, à un traitement qui est basé sur l'usage des de recours aux images chocs et spectaculaires, et aux débats, aux simili-débats qui sont conçus comme des arènes politiques. Voilà. Alors Acrimed a relevé sur son site deux cas très significatifs de sujets sacrifiés au plan médiatique. Le premier est pourtant au cœur des préoccupations sociales et politiques du moment, et le second, il est précisément lié à la question de la liberté d'informer, qui est pourtant chère à nos médias, si prompte à arborer la bannière du combat pour les libertés publiques et le fonctionnement démocratique dont ils s'érigent en symbole vertueux, comme l'a rappelé Pascal. Premier exemple donc, le traitement médiatique quasi nul des élections professionnelles dans la fonction publique, alors que ce secteur se trouve au cœur, hein, des réformes du gouvernement actuel et des luttes sociales depuis des semaines, et qu'elles auraient pu susciter de nombreux débats et reportages. Alors qu'on en juge, hein, 9 articles seulement au cours des 6 semaines précédant le scrutin du 6 décembre, dont 2 dans l'Humanité, et un mini-reportage sur France 3 Corse. Alors bien entendu, au lendemain des résultats des élections, les chefferies éditoriales ont daigné s'exprimer sur le sujet, en se félicitant bien sûr de l'arrivée en tête de la CFDT, et en réactivant leur inlassable saillie sur le courage de Laurent Berger et en retour l'archaïsme de la CGT. Deuxième exemple, et je terminerai là-dessus, Le silence médiatique autour de la situation de Julian Assange. Cet informaticien lanceur d'alerte, fondateur du média Wikileaks, et qui est réfugié depuis plusieurs années à l'ambassade d'Équateur à Londres parce que menacé de prison aux États-Unis pour avoir révélé des preuves des pratiques de surveillance à grande échelle de l'Agence de sécurité nationale américaine, mais pas que, hein, également les manœuvres d'évasion fiscale des grands groupes. Alors ce silence médiatique, c'est au fond l'expression du réalisme économique à l'œuvre, hein, dans les grands médias commerciaux, puisqu'après avoir publié les documents secrets révélés par Assange et utilisé ce matériau pour redorer leur blason de presse libre, de nombreux médias sont depuis longtemps rentrés dans leur rang et ont renoncé à soutenir durablement un combat pourtant fondamental pour la démocratie. Et encore une fois, lorsqu'il s'est agi d'en reparler, ce fut pour discréditer ce combat. À l'image de l'Obs, le 27 novembre 2018, qui a publié un article affirmant qu'Assange avait rencontré à plusieurs reprises le directeur de campagne de Donald Trump, juste avant une cyberattaque de la messagerie du chef de campagne d'Hillary Clinton. Information, enfin la rencontre, ce qui s'est avéré finalement fausse, hein, c'était une fake news. Voilà.
Ben, merci d'être intervenu et de nous avoir fait un petit résumé.
Moi, j'aurais bien voulu compliquer, ajouter 2-3 trucs. Vite fait, c'est juste pour dire que j'ai l'impression quand même que les médias se sont pris le retour de bâton. C'est-à-dire qu'au début, le jaune à l'écran, ça passait bien. Et puis ça changeait parce que franchement, les manifs de la CGT et puis des syndicats, c'est chiant, c'est vrai. C'est chiant une manif, hein, voilà. Et donc ils avaient un truc visible, en plus ça passait bien à l'antenne avec des gens nouveaux, mais très rapidement ils n'ont pas du tout été chercher c'est qui ces gens. Alors après d'un seul coup on a vu apparaître les articles qui sont les gilets jaunes, comme si on en était encore à se demander comment un truc éclaté sur toute la France pouvait être un mouvement unique, mais bien c'est plusieurs, hein. Mouvement d'ailleurs on le voit bien parce que tout le monde ne pense pas pareil partout en France, qu'il y a plusieurs manières aussi de se mobiliser. Et puis d'un seul coup on a eu l'impression que les médias qui n'aimaient pas bien ces gilets jaunes se sont retrouvés un peu dans une... se sont beaucoup servis des listes qui sont arrivées, c'est vrai d'un coup, hein, sur les pages Facebook, des revendications. Et alors ça, c'est apparu dans tous les médias, comme finalement on pouvait sauver les gilets jaunes parce qu'ils avaient des revendications avec l'augmentation du SMIC. Et donc on a retrouvé dans les médias des listes à la Prévert qui n'expliquaient jamais d'où on avait été sortir ces listes, parce qu'elles venaient de pages Facebook précises, et que moi je trouvais que là, on nous racontait pas vraiment d'où venait cette information et comment on pouvait l'analyser et comment on pouvait s'en saisir ou pas d'ailleurs, et comment la critiquer. Donc moi je trouve qu'il y a une récupération aussi vraiment populiste de ça, c'est-à-dire que le gilet jaune c'était chouette, ça a animé les écrans et ça a rempli les pages papier, et puis d'un seul coup il a fallu se réadapter parce qu'on les comprenait pas bien ces gilets jaunes, parce que ça bougeait de partout, qu'en plus oulala, en province, imaginez, ils réagissaient pas comme à Paris, donc c'était compliqué, et puis en plus il y en a qui étaient sur des ronds-points, ça aussi c'était marrant. Alors en plus sur les ronds-points c'était marrant parce qu'ils avaient des merguez, alors moi j'avais envie de leur dire va dans les manifs derrière le camion de la CGT et puis t'iras boire un pastis. C'est-à-dire qu'on découvrait aussi que d'un seul coup la mobilisation c'était ça aussi, hein, le côté convivial, ce qu'il y a, hein, dans des manifestations syndicales, mais les journalistes avaient tellement perdu l'habitude d'aller au contact finalement de gens qui étaient en mobilisation, quel qu'il soit, qu'on soit d'accord ou pas avec, que d'un coup ils découvraient qu'on mangeait des merguez dans du pain et qu'on coupait la baguette et tout ça, qu'on faisait des feux de bois. Et puis, à l'après arrivée, comme vous le disiez, la répression. Et alors là, on est rentré dans une nouvelle mesure, effectivement, ce qui a fait que finalement, les revendications, ça intéresse plus personne. Ce qui compte, c'est le sang, ça, hein, c'est une belle couleur aussi, hein, ça pète à l'écran. Et puis, on a tous les samedis, Le Monde nous fait des directs, mais pour nous raconter plus rien. C'est-à-dire que Le Monde, quand même, sur son site internet, nous lance des directs qui nous racontent rien. Donc 15h56, un gilet jaune se dirige vers la droite. 15h57, une voiture est tapée. 15h58, un scooter est renversé. 15h59, un gilet jaune est blessé. Voilà, alors c'est devenu aussi une espèce de truc de rituel qui ne nous raconte rien depuis le début. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas vraiment finalement au mouvement, comment il a débuté. Puisque sur tous les plateaux des télés, on a eu son gilet jaune. Féminin, masculin, en tout cas les gens venaient avec leur gilet, et qu'on s'est rendu compte bien après de parfois finalement comment ces gens étaient peu fréquentables, c'est-à-dire qu'on a invité des gens vite fait, sans chercher à savoir d'où ils venaient, est-ce qu'ils représentaient des gens, est-ce qu'ils parlaient pour eux-mêmes, et puis on s'est rendu compte après que alors c'était tel blogueur, telle personne et telle personne, donc il y a eu peu de travail journalistique quand même qui a été fait, on est allé dans l'urgence, vite fait, et parce que depuis bien longtemps, moi je pense qu'il y a beaucoup d'analyses dans les médias de ce que peut être un mouvement social, un mouvement de rue, qu'on ne s'intéresse pas non plus d'ailleurs aux black blocs, ni à ce qu'on appelle aujourd'hui les casseurs, ça n'intéresse personne en fait, et aujourd'hui par exemple, beaucoup l'extrême droite à Lyon, et en fait ça n'intéresse personne l'extrême droite, donc il n'y a personne pour analyser le fait qu'aujourd'hui partout en France on a des patriotes nationalistes qui essayent aussi de récupérer ce mouvement à leur façon.
Enfin qui était là quasiment
dès le départ, mais qui aujourd'hui à Lyon essaye.
Moi j'ai souvenir de la première mobilisation et avec les fameux premiers ronds-points où on voyait Gabriac en
tout
photo sur un rond-point.
Tout à fait.
Oui, donc ils y étaient bien avant que la gauche se réempare du mouvement.
Ça veut dire que ça intéresse. Voilà, mais l'extrême droite puante vraiment à part Marine Le Pen n'intéresse personne. Donc on ne sait pas analyser non plus dans les médias ces mouvements qui sont partout en France, puisqu'on ne les connaît pas bien, à part quelques reportages très sérieux et documentaires un peu sérieux qu'on va voir sur Arte. Globalement, on ne s'intéresse plus à ces mouvements d'extrême droite sur France 2, TF1 ou sur BFM. Donc on n'est pas en capacité de venir analyser ce qui s'est passé à Lyon la semaine dernière.
Voilà. Grosso modo, les journalistes ne font plus un travail de journaliste, ils font un travail de rappelissage d'antenne pour attirer du monde, et d'ailleurs ils ont battu des records d'audience, quand même, on peut le dire, et tout en ayant très peu de travail journalistique, donc voilà, on est dans cette information spectacle, et du coup c'est beaucoup plus du spectacle que de l'information, et voilà.
Bon.
Merci d'être venu parler, on va rester dans le spectacle un petit peu.
Oui, et puis ça va nous permettre de faire de la critique de l'image, donc aussi on va en profiter avec vous pour que vous soyez là. Alors, avec Laurent, nous sommes allés à la Sucrière voir cette expo du photographe Steve McCurry qui s'appelle Le Monde de Steve McCurry. C'est jusqu'au 26 mai prochain, la Sucrière, vous savez, c'est au bout là-bas à Confluence.
Hein. Alors vous n'avez pas pu rater cette expo.
Ils ont payé de la pub de partout.
Voilà, ils ont envahi l'espace publicitaire qui nous bousille la vue lyonnais. Alors que ce soit sur les abribus, sur les 4x3, sur les journaux gratuits de partout, vous avez la même photo, la même photo de cet Afghan pris il y a plus de 20 ans.
Alors pour rappeler, Steve McCurry, il est né en 1950, il est des États-Unis d'Amérique et il a parcouru le monde avec son appareil photo. Et c'est ce que veut nous raconter cette exposition. Il y a près de 200 pièces qui nous sont données à voir. C'est une fondation italienne qui s'appelle Civita qui nous propose cette exposition. Donc c'est une exposition itinérante. Je vais tout de suite faire ma critique, comme ça après on passe à autre chose. D'ailleurs les photos sont en assez mauvais état, personnellement je trouve. Elles sont un peu rayées, parfois il y a des traces de doigts.
Ouais, mais en fait, ça se voit pas parce qu'elles sont tellement grandes qu'on se recule et qu'on voit pas vraiment.
Je suis pas d'accord, mais voilà, c'était juste pour dire que moi, ça m'a un petit peu embêté. C'est une exposition qui va commencer par un travail photographique en noir et blanc. Le premier travail de Steve McCurry en Afghanistan avec les Moudjahidines. Donc c'est un travail vraiment qu'on pourrait presque appeler un travail de photographe de guerre.
Non esthétisant,
son premier travail.
Sans trafic de photos. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui
gâche
l'image, on la laisse. S'il y a une personne qui est coupée sur un côté de l'image, on la laisse.
Et c'est très marrant parce que des fois, on se dit « Oh, il a raté la main. Oh, il a raté le genou. » Enfin voilà, c'est très très drôle. C'est une belle pièce.
Voilà, dans l'intégrisme de la photo, on dirait « là, c'est là, non, elle n'est pas parfaite, il manque ça. »
Et puis ensuite,
ça a un côté sympa quand même.
Voilà, moi j'ai bien aimé cette première pièce. Et puis, alors, sachez que vous êtes accompagné dans l'exposition par un audio guide qu'on va vous remettre. Sauf que la voix monocorde française qui accompagne la traduction de Steve McCurry
est horrible.
nul. Voilà, ça donne pas du tout envie en fait de s'accoler cet audio guide. Alors en plus, moi je suis pas toujours fan d'avoir ces explications. Est-ce qu'on regarde la photo? Est-ce qu'on est encadré? Est-ce qu'on doit lire des choses? Enfin bon. Donc c'est un parcours sinueux entre les photos. C'est un voyage, c'est comme présenté comme ça. C'est pas du tout chronologique, c'est pas du tout par pays, c'est pas du tout par
tout
contenu
mélangé.
De la photo. C'est tout mélangé. Toi, tu n'as pas aimé ce mélange.
Ah, à un moment, on voit les photos des fameux torii japonais près de Tokyo, de Kyoto plutôt. Et puis, je sais pas, un autre endroit, bah, on voit une deuxième photo prise au même moment d'un autre point de vue. On se dit, mais quel est le lien? Pourquoi pas avoir mis ensemble? Alors moi, je trouve ça vraiment incohérent, comme ça, d'avoir des choses qui sont disparates.
Et moi, ça m'a pas, voilà, moi ça m'a pas du tout gêné. Donc on a quand même de la photo grand format et évidemment de la photo couleur, puisque il est beaucoup connu pour ce travail. Hein, il est connu pour son Afghan Girl, hein, Sharbat Gula. Ça, il a su après comment s'appelait cette jeune fille qui est devenue l'emblème de Steve McCurry, qui est l'icône sur cette affiche de cette exposition qu'on retrouve maintenant de partout. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière cette photo, on a cette jeune fille, on la retrouve femme maintenant, puisqu'il l'a retrouvée. Il a refait un portrait de cette femme, qui est, moi je trouve, pour une plutôt pas mal, parce qu'elle n'est pas mise juste à côté. Toi, tu aurais peut-être aimé qu'elle soit juste à côté. Moi, j'allais ailleurs, c'est bien aussi. Ça évite de se dire, ah là là, elle a mis comme ci ou comme ça, où elle est, voilà. Elle a changé, je trouve que ça met un petit peu de distance par rapport à ça. Mais cette photo, elle est symbolique aussi du travail de Steve McCurry. Et c'est un peu de ça dont on avait envie de débattre aussi avec vous et de vous, qu'on se pose tous et toutes des questions. Parce qu'on a eu ce débat tous les deux avec Laurent hier soir. Et c'est que Steve McCurry, il s'est fait taper sur les doigts, pris le doigt coincé dans l'appareil il y a quelques années en arrière, il a perdu des prix. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de distinctions au cours de sa carrière. Il s'est fait choper pour une photo mal trafiquée. Parce que là, il ne s'agit pas de retoucher, il s'agissait vraiment de trafic. Si vous voulez, vous avez un poteau jaune. Bon, ben, à 2 cm du poteau, il y a le reste du poteau. Vous voyez, il est en décalage quand même assez flagrant. Et puis tout le mur derrière, ben, il est tordu parce que voilà. Donc c'est quelqu'un qui retouche beaucoup, beaucoup. Beaucoup.
Au point d'enlever des personnages des photos, voilà. D'enlever des éléments du décor. Alors, c'est un travail d'artiste plus que de photographe. Mmh. Alors, moi, je défends la photo. Je suis un intégriste du non-touchage de photos. Moi, je suis contre le recadrage déjà de la photo. Je suis contre qu'on masque, qu'on modifie les choses. Mais c'est un point de vue de photographe et non pas d'artiste. Parce que, normalement, quand on prend la photo, on doit la prendre correctement dès le départ, on doit essayer de gérer au mieux possible et l'œuvre elle est écrite à ce moment-là. Là, eux, c'est un travail de réécriture de la photo, puisque à partir d'une image, il en fait une autre. Mais le seul souci, en fait, c'est que moi, j'ai rien contre cette démarche-là, à condition qu'elle soit explicité et que tout le monde soit au courant que la photo qu'on voit n'est pas une photo réaliste, mais une photo retravaillée par un artiste sur un ordinateur. Or, c'est précisé nulle part.
Alors, moi, ça me gêne pas si jamais c'est un artiste.
C'est un artiste quand même.
Oui, mais si jamais tu fais un artiste, tu fais ta photo, tu la retouches. C'est comment au début. Alors, il faut rappeler que Steve McCurry, il se l'est déjà à l'agence Magnum, agence quand même extrêmement réputée. Et puis, ça a été un photographe du National Geographic. C'est-à-dire, vous savez, ce magazine qui allait à travers le monde nous montrer des endroits du monde qu'on ne connaissait pas et qui est un magazine qui a beaucoup retouché aussi les photos parce que c'était plus chouette d'avoir un bel Indien bien doré plutôt qu'un peu palo. Vous voyez, d'ailleurs. On pourrait d'ailleurs parfois les accuser un peu de racisme pour avoir retouché un peu la couleur de certains personnages sur des photos. On pourrait. Mais il a participé de ce courant-là, hein, Steve McCurry, de comment on retouche aussi les photos du monde, les photos de voyage, hein, puisque maintenant il se cache. Hein, il dit qu'il n'est plus un photographe photoreporter, mais un photographe de voyage. Donc il se case plutôt vers l'artiste. Donc moi, qu'un artiste ait une photo retouchée, après tout, pourquoi pas, c'est quand même un tableau. Mais quand on nous disait à l'époque qu'il était un photoreporter, ben en fait, c'est pas si simple que ça. Jacques, tu voulais...
Oui, alors moi, je connais personnellement pas ce photographe, à part effectivement cette photo qui est célèbre, qu'on a vue plusieurs fois. Là, j'ai vu quelques photos sur la petite brochure de présentation. Parce qu'il y a un élément intéressant dans ce que tu as dit au départ. Effectivement, c'est comment ce type a débarré. C'est-à-dire qu'il a commencé dans le travail de photos non esthétiques, dans photos reportage. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit... Ça peut permettre peut-être de comprendre, effectivement, effectivement la manière dont aujourd'hui, enfin, je pense que là on a un effet de champ, on a un effet de la consécration artistique, c'est-à-dire qu'un type au départ fait des photos effectivement de l'esthétique, il fait du photoreportage, etc. Et puis avec la consécration artistique arrivant, il s'autorise à pratiquer sa photo, non seulement à la retoucher, on parle d'irresponsabilité artistique un petit peu. L'artiste peut tout, il peut s'autoriser puisqu'il est artiste. Bon, voilà. Moi, c'est un petit peu ce que ça me. Mais j'en dirai pas beaucoup plus parce que je ne connais pas exactement l'artiste.
Mais il recompose vraiment les photos.
Oui, d'accord.
La malhonnêteté, c'est que.
Je ne vais pas le dire.
Il le dit pas, et puis il l'a fait dans un journal qui a une certaine. Prestance en disant nous on fait des choses un peu scientifiques. Or en fait la réécriture on blanchit un peu la peau, on enlève le truc qui est derrière, ça n'a pas sa place, puisque si on veut montrer un Indien, comme tu disais, dans son environnement, un Indien d'Inde, puisqu'il a fait beaucoup de photos en Inde, on n'enlève pas le pot derrière qui montre aussi que ça fait partie du décor, ça fait partie de la vie de cet Indien ou de ces gens qui habitaient là. C'est un petit peu méprisant, un peu ce regard européaniste. La photo doit être esthétisante au maximum. Ça, le pot il est un peu sale derrière, il y a des détritus, hop, on enlève ça de la photo. Or, c'est dommage.
Alors, ça reste que c'est un très bon portraitiste. On a vu des photos dans cette exposition d'hommes et de femmes. C'est vraiment des très beaux portraits. Il a su saisir aussi avec. Voilà. Mais on sait que derrière, la couleur est retravaillée, qu'il a pu nettoyer l'image. Donc, ça donne une très belle photo. On ne peut pas là-dessus enlever la chose.
Toutes les photos présentées sont magnifiques. C'est très beau. D'accord. Et en plus, l'éclairage est incroyablement fait, ce qui n'est pas le cas souvent dans les expos photos. Donc là, tout est mis en avant. Il faut y aller, non pas pour aller voir un photojournaliste, mais pour aller comme on va voir une expo de peinture.
Mais lui, il dit qu'il est un conteur visuel.
Voilà,
c'est ce qu'il dit maintenant, c'est ce qu'il explique, ce qu'il donne à voir de son travail, c'est ça. Et je pense qu'il a raison, c'est plus juste. D'ailleurs, moi, alors j'ai trouvé sur un site qui s'appelle petapixel.com, c'est des articles qui sont assez récents, et c'est en anglais, hein, vous m'excuserez, mais c'est « How to edit photo like Steve McCurry ». Pour vous traduire, c'est « Comment retoucher de la photo à la manière de ». Et donc, c'est maintenant une méthode de travail qui vous explique en 10 points, avec l'exemple, si vous faites un peu de photo, vous savez, il y a des magazines, on vous explique ce qu'il faut faire, faut pas faire, tout ça. Et ben là, donc, vous avez donc la photo de départ et vous avez la photo d'arrivée, et on vous explique en plusieurs étapes ce qu'il faut nettoyer, et c'est à la manière de. Donc c'est intéressant parce qu'à la manière de, c'est aussi dans l'art, ça se fait, on fait des choses à la manière de. Et donc maintenant il a institué une méthode de nettoyage de photos et que donc des sites vous vendent comme étant une réalité de Steve McCurry. Et bon, là, je vous ai montré à Jacques et à Pascal un petit peu des choses. C'est un peu quand même, il y a une des photos, hein, celle-ci, c'est quand même un peu chercher le jeu des 7 erreurs, vous voyez, et des 7 différences entre les photos, parce que c'est quand même assez important.
Bah là, c'est sur la photo du vélo, ils sont 3 sur le vélo, il enlève un personnage, il n'y en a plus que 2, ça change la donne.
Ou 4, hein. Puis il enlève l'arrière.
Il enlève l'arrière.
Moi, ça m'a posé une autre question, c'est cette photo avec les enfants qui est très très belle en vrai. Est-ce que ça veut dire que sa photo de départ, elle est ratée?
Oui.
Et qu'il a dû intervenir pour qu'elle soit réussie.
Alors,
est-ce que c'est un mauvais photographe, mais un bon artiste? Ou est-ce que c'est quand même un bon photographe? Je n'ai pas la réponse, je lance le débat.
Non, mais la photo n'est pas ratée en tant que photojournaliste, elle est ratée en tant qu'œuvre d'art esthétisante avec les critères qu'il a.
D'accord. Je pense qu'effectivement, l'ambiguïté du statut de ces photos, pour moi, est une source de malaise importante. De deux choses l'une. Soit on fait effectivement une photo. Et dont on, même y compris sur des portraits, dont on va en rendre compte sans tricher, soit on fait autre chose. Et là, je pense que ça me met mal à l'aise, moi, par exemple, y compris de la photo de cette jeune Afghane jusqu'à celle que tu nous montres là, où tu vois les gens. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que sont ces objets finalement qui photographiques, qui sont au service de ces. Envies personnelles, donc on pourrait dire c'est une matière qui devient tellement instrumentalisé en fonction de ce qu'il fait, que, alors à la limite, moi c'est l'ambiguïté des deux photos qui me gêne. Si on me montre, effectivement tu disais, et y compris qui s'inscrit dans son parcours, puisque voilà, il fait des... Si on me montre des photos dont on sait qu'elles sont pas, qu'elles n'ont pas lien de la réalité, on a une relation esthétique et à la photo, on peut te montrer un certain nombre de choses. Quand on montre des gens, ça me pose, moi, personnellement, beaucoup plus de problèmes, parce que je me pose la question de savoir si ces gens, étant photographiés comme ça, si on a le droit vraiment de les instrumentaliser au service de cette... je sais pas, au service d'autre chose, quoi, au service d'une... je sais pas, d'une représentation, d'une mise en représentation de la réalité qui est quand même très éloignée de ce qu'elle est. Voilà. Moi, j'aurais tendance à être assez réticent à l'égard de ça et être je pense que la photo de reportage, elle répond pas à la même éthique, qu'une photo esthétique. Et en particulier dans la photo de reportage, c'est pas gênant qu'il y ait quelque chose qui soit mal cadré, mal coupé, etc.
Oui, parce que la photo raconte quelque chose.
Oui.
Et on a confiance dans ce qu'elle raconte.
Et l'objectif du reporter, en principe, quand il fait sa photo, c'est d'essayer de restituer au mieux ce qu'il voit et de donner à voir ce qu'il voit, c'est-à-dire la détresse, la souffrance, je sais pas, tout un ensemble de choses, voilà. Ensuite, si c'est retouché, moi ça me pose problème, parce que je me dis que quelque part je me fais berner, sauf si effectivement je vais dans une exposition où je sais à l'avance et à l'entrée c'est marqué clairement que ben on va pas voir des photos qui ont un rapport avec le réel. On va voir ce que ce gars a reconstruit, les couleurs, les formes, les cadres. Et donc, l'expression de ce gars qui présente des objets, comme on a des objets, on pourrait dire... alors, peut-être qu'on pourrait imaginer, bien sûr, je termine juste avec ça, qu'effectivement, même y compris en trompant, je ne suis pas contre le fait forcément d'ajouter quelque chose pour... par contre, il faut que ce soit effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, dit aux gens qui regardent la photo. Enfin, voilà. Parce que parfois, accéder à la réalité, c'est un peu comme en littérature. On n'accède pas forcément à la réalité en faisant que du descriptif. On peut faire parfois un effet littéraire qui peut permettre de montrer des choses qu'on ne verrait pas autrement. Là, c'est peut-être ça qui est recherché, mais voilà, il faut que ce soit maîtrisé. Et il faut que les gens, et ceux avec, sur qui... moi, je me pose la question de ces gens qui sont les objets de ces photos, et voilà, quel rapport il a avec eux, qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'il en fait, etc. Et aussi le public qui vient, qu'est-ce qu'il doit. Effectivement, je pense que le moindre des choses, c'est qu'on lui dise, voilà, cette photo est retouchée.
Alors, le public qui vient, je pense qu'il voit juste de belles images. Les articles qu'on a pu voir dans la presse locale vont pas plus loin que ça non plus. Pas de recul, pas d'analyse. C'est le côté esthétisant qui sort. Mais il y a des photos qui sont tellement fortes aussi. Les photos des femmes dans la tempête de sable,
cette
par exemple.
Cette photo, en plus, la lumière est absolument magnifique.
Voilà.
La
vraie, en grand,
exceptionnelle.
Elle a tombé par terre.
C'est exceptionnel.
Donc voilà,
moi, j'ai adoré cette photo. Voilà. Ouais.
Du coup, je pense que ça cannibalise en fait tout le reste, le côté parfaitement beau, esthétisant. En plus, c'est des critères esthétisants occidentaux qu'on, ouais, tout le monde apprécie. Ces gens, il y a une espèce d'exotisme quasi raciste, hein, quand même, des fois. On se dit, c'est une caricature
et puis c'est la misère du monde,
de l'hindou, de voilà. Mais alors, on n'est pas sûr qu'il ait cette vision-là non plus, en fait. Du coup, on n'en sait rien, en fait. Voilà.
Non, je crois profondément que Steve McCurry est allé à travers le monde pour rencontrer
les gens,
qu'il a aussi, il est passionné par les gens, qu'il aime aussi montrer ce qui peut se passer à l'autre bout du monde, et que je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit du tout xénophobe et raciste, bien au contraire.
Non, après,
mais il a fait aussi un business. C'est quelqu'un qui a beaucoup de livres. Hein, vous irez voir un petit peu sa biographie, et qui a édité beaucoup de livres, mais il a une belle carrière derrière lui aussi.
Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Quel photographe fait une expo à Lyon de cette ampleur? On n'en en voit jamais, en fait. Alors, on aurait pu avoir une expo Doineau, si une expo Doineau avait, parce que c'est quelqu'un qui est dans le grand public. McCurry, c'est un des rares à être un photographe plutôt récent, même s'il est déjà âgé, à avoir une aura telle qu'on peut, avec une seule image qu'on placarde partout, faire qu'il y a la queue le premier jour de l'expo, comme c'était le cas quand on est allé. Hein, malgré un prix exorbitant, parce que ça coûte 13 euros de voir une expo photo de M. McCurry. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi populaires dans ce domaine-là. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein. On va voir des expos photos, nous, des fois, on est deux. Hein. Là, il y avait la queue dehors, là, sous la pluie. Voilà.
Donc voilà, en fait, vous pouvez tout à fait y aller. Hein. C'est donc à la Sucrière, c'est aussi l'occasion de découvrir le travail de Steve McCurry.
Non, mais ne serait-ce que pour la photo en grand de ces femmes dans le désert, ça vaut vraiment.
Et puis, voilà, ça n'empêche pas la critique, l'analyse, et ça n'empêche pas d'aimer non plus. Enfin voilà, il faut juste être conscient de ce qu'on voit et de se renseigner aussi sur un artiste. Un artiste, il a une vie, il travaille, et donc c'est aussi intéressant de s'intéresser à sa méthode. Voilà.
Il y a plein de critiques sur Internet, vous pouvez trouver des gens qui s'acharnent contre lui.
Ah mais, il a créé... petapixel.com, si vous lisez un petit peu l'anglais, on trouve plein d'articles, pas mal.
Bon, bah, du coup, c'est bientôt la fin de ce Kenya Info. Alors, je vais faire une petite info...
Très vite.
Ouais, avec un petit mot. Vous savez, imaginez-vous, vous avez un petit truc de quelques grammes, de quelques centaines de grammes à ramasser par terre. C'est facile à faire à main d'homme. Vous pouvez même faire...
Ou de femmes.
D'être humain, excuse-moi. Et vous pouvez aussi dire, tiens, je vais programmer un robot pour le faire. C'est très facile. Hein, mes élèves sont capables de le faire, par exemple. Eh bien, il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils se sont compliqués la vie. Et quand ils y arrivent, ça devient un exploit. C'est le cas à Fukushima. Vous allez me dire, c'est plus compliqué à Fukushima. Eh oui, ils ont envoyé un robot hier. Alors, ils ont envoyé déjà plusieurs robots qui sont morts en quelques secondes. Enfin, c'est un peu compliqué. Là, ils sont arrivés pour la première fois à soulever des petits morceaux d'éléments radioactifs à l'intérieur, juste à côté de la cuve, des réacteurs accidentés. On rappelle qu'il y en a 3. Et donc, ils ont soulevé, comme ça, quelques minutes, ils ont reposé. Et c'est un exploit. Ça démontre une chose, c'est qu'en fait, quand on passe dans le monde radioactif et nucléaire... Ben, tout devient compliqué, même pour soulever quelques grammes de matière radioactive. Et ça nous montre un peu ce qu'est en train de faire TEPCO de choses incroyables. C'est qu'ils sont dans une situation incroyablement complexe, incroyablement dangereuse. Et ils progressent, hein, parce qu'on n'est jamais arrivé à faire ça à Tchernobyl. Hein, et ils ont espoir d'arriver à sortir un jour... ce truc tout mélangé qu'on appelle le corum, la cuve qui a fondu avec les barres d'uranium, et ils ont espoir d'arriver à le sortir. Il devrait commencer d'ici mars 2020. Il n'y a que des gens complètement fous comme le sont TEPCO et ses employés japonais qui sont prêts à se sacrifier, parce qu'il y a quand même, bon, ils prennent des doses, ils ne meurent pas tout de suite, on n'est pas en Union soviétique à l'époque de Tchernobyl, bien évidemment. Mais le nationalisme japonais est suffisamment fort pour que, tout naturellement, les gens soient prêts à prendre des doses et à aller travailler dans cet environnement très très dangereux. Donc voilà, c'était juste pour montrer que, en fait, si on abandonne le nucléaire, on abandonne aussi plein de problèmes. Hein, parce que dans la vie de tous les jours, je le rappelle, on est capable de soulever assez facilement n'importe quel poids, enfin n'importe quel élément qui fait quelques grammes, et que le nucléaire complique la vie, et en plus en la rendant dangereuse. Voilà, c'était juste ça, je trouvais ça très, très drôle qu'il se soit extasié sur je suis arrivé à soulever quelques grammes de métal, puisque c'est du métal. Oui.
Et ben voilà, donc soit tu veux encore faire une info et nous te l'accordons, soit nous mettons fin à cette émission ce soir.
J'avais une info inutile, mais je ne la retrouve pas. Ouais, c'était 141 km, elle s'appelait mon info. En fait, à Lyon, tous les jours, un truc comme ça, ou en moyenne, il y a 141 km de bouchons. Et que les gens perdent donc énormément d'heures, il paraît. Enfin, les automobilistes perdent des heures dans les bouchons. L'info est inutile, puisque si on perd du temps à faire quelque chose... Bah, il faut trouver une alternative, et a priori, il n'y a pas de... Ces gens-là ne cherchent pas vraiment d'alternative. Voilà, c'était inutile de donner ce chiffre de 141 € de bouchons.
Pourtant, ça a bien fait...
Troisième ville française avec les bouchons.
Ouais, et pourtant, ça a bien fait les papiers dans la presse locale. Ouais.
Mais oui, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, Lyon, qui est la ville des bouchons, restaurant et voiture. Vous choisissez votre camp, nous, on n'a pris pas les voitures. Eh ben on va s'arrêter là, on avait prévu plein d'autres choses, parler de racisme, de fascisme, parce que c'est assez glauque en ce moment. Mais nous ferons ça une autre fois, puisqu'il est 20h. Nous avons fini ce Canu Info, merci d'être venu parler avec nous et
merci à vous.
De votre domaine de prédilection qui est la critique des médias, et aussi du photographe McCurry qui a fait l'objet d'une intervention de tout le monde.
Eh ben, on espère vous revoir bientôt avec nous pour une prochaine émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, tout à fait. Hein? 19h-20h.
Bah ouais, j'espère bien que t'as emballé. Là, je te sens un petit peu mou du genou là sur cette fin d'émission. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite une très belle soirée. Amusez-vous bien. Voilà. Que dire de plus? Et puis demain, il paraît qu'il y a une autre équipe avec un autre Canu Info.
Exactement.
Et que c'est comme ça un peu tous les jours de la semaine. Et voilà.
Bonne soirée.
Ciao, ciao.